Chapitre 35, King's Cross. Il était étendu face contre terre, écoutant le silence totalement seul. Personne ne le regardait. Personne d'autre n'était présent. Il n'était même pas sûr d'être présent lui-même. Longtemps après, ou peut-être tout de suite après, l'idée lui vint qu'il devait toujours exister, qu'il n'était pas une simple pensée désincarnée. Il était en effet allongé, véritablement allongé, sur une surface dure. Il avait donc conservé le sens du toucher, et la matière sur laquelle il était étendu existait également. Au moment où il parvenait à cette conclusion, Harry prit conscience qu'il était nu. Convaincu d'être seul, il n'en éprouvait aucune gêne, mais il était légèrement intrigué puisqu'il pouvait toucher. Il se demanda s'il était aussi capable de voir. Il lui suffit de les ouvrir pour se rendre compte qu'il avait toujours des yeux. Il était couché dans une brume claire, brillante, une brume telle qu'il n'en avait jamais connue. Ce n'était pas comme un nuage vaporeux qui aurait masqué les alentours, c'était plutôt que les alentours ne s'étaient pas encore formés au sein de ce nuage. Le sol sur lequel il était allongé paraissait blanc, ni chaud ni froid. Il était là, tout simplement, plat, sans aucun trait caractéristique, rien de plus qu'un support. Il se redressa, en position assise. Son corps ne semblait porter aucune blessure. Il passa ses doigts sur son visage. Ses lunettes avaient disparu. Un bruit lui parvint alors à travers le néant informe qui l'entourait. De petits coups sourds, produits par une créature qui trépignait, gigotait, se débattait. C'était un bruit pitoyable, mais aussi quelque peu indécent. Il eut l'impression désagréable d'être indiscret, d'écouter quelque chose de furtif, de honteux. Pour la première fois depuis qu'il était là, il aurait souhaité avoir des vêtements. À peine avait-il formulé ce vœu dans sa tête qu'une robe de sorcier apparut tout près de lui. Il la prit et l'enfila. Elle était douce, propre, chaude. Il trouvait extraordinaire la façon dont elle avait surgi simplement comme ça, dès l'instant où il l'avait voulu. Il se leva et regarda autour de lui. Se trouvait-il dans une sorte de grande salle sur demande? Plus il regardait, plus il y avait de choses à voir. Un immense toit de verre en forme de dôme étincelait au soleil, loin au-dessus de sa tête. Peut-être s'agissait-il d'un palais? Tout était immobile et silencieux, en dehors de ces étranges coups sourds, accompagnés de gémissements qui venaient de quelque part dans la brume, non loin de lui. Harry tourna lentement sur place, et le décor environnant sembla se créer de lui-même. Un vaste espace ouvert, propre et brillant, une salle plus grande de très loin que la grande salle sous ce dôme de verre lumineux. L'endroit était vide. Il était la seule personne présente en dehors de... Il eut un mouvement de recul. Il venait de voir la chose qui produisait tous ces bruits. Elle avait la forme d'un petit enfant nu, recroquevillé par terre, la peau à vif, rêche, comme écorchée, et reposait frissonnante sous le siège où on l'avait laissée, rejetée, cachée à la vue, luttant pour respirer. Harry en avait peur. Même si la créature était fragile, toute petite, blessée, il ne voulait pas s'en approcher. Il s'avança cependant un peu plus, prêt à bondir en arrière à tout moment. Bientôt, il en fut suffisamment proche pour la toucher, mais ne put se résoudre à le faire. Il se sentit lâche. Il aurait dû essayer de la réconforter, mais il éprouvait de la répulsion.
« Tu ne peux pas l'aider !»
Il pivota sur ses talons. Albus Dumbledore marchait vers lui, droit et fringant, vêtu d'une longue robe bleu nuit.
Harry !»
Il ouvrit largement les bras et ses mains étaient toutes deux blanches et intactes.
« Tu es décidément un garçon merveilleux, un homme courageux, très courageux. Viens avec moi. »
Abasourdi, Harry suivit Dumbledore qui s'éloigna d'une démarche nonchalante de l'endroit où l'enfant écorché gémissait par terre et le conduisit vers deux fauteuils que Harry n'avait pas remarqués auparavant, installés un peu plus loin, sous le haut plafond étincelant. Dumbledore s'assit dans l'un des fauteuils et Harry se laissa tomber dans l'autre, observant le visage de son ancien directeur d'école. Les cheveux et la barbe longs et argentés, les yeux bleus au regard perçant, derrière des lunettes en demi-lune, le nez crochu, tout était tel qu'il se le rappelait. Et pourtant... « Mais vous êtes mort ?» dit Harry.
« Oh oui !»
répondit Dumbledore d'un ton neutre. « Alors, moi aussi je suis mort ?»«
Ah !»
s'exclama Dumbledore qui souriait encore plus largement.
« Telle est la question, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, mon cher Harry, je crois que non. »
Ils se regardèrent. Le vieil homme rayonnait. « Non ?» répéta Harry.
« Non ?»
confirma Dumbledore. « Mais... » Harry leva instinctivement la main vers la cicatrice en forme d'éclair. Elle semblait ne plus être là. « Mais... j'aurais dû mourir. » « Je ne me suis pas défendu, je voulais le laisser me tuer. »«
Et c'est cela qui, à mon avis, a fait toute la différence !»
déclara Dumbledore. Une impression de bonheur paraissait émaner de lui, comme une lumière, comme un feu. Harry ne l'avait jamais vu aussi pleinement, aussi manifestement satisfait. « Expliquez-moi !» demanda Harry.
« Mais tu sais déjà !»
répondit Dumbledore. Il se tournait les pouces d'un air joyeux. « Je l'ai laissé me tuer !» reprit Harry. « N'est-ce pas ?»«
En effet !»
dit Dumbledore, approuvant d'un signe de tête.
« Continue !»
Donc, la partie de son âme qui était en moi... Dumbledore hocha la tête avec encore plus d'enthousiasme, son large sourire encourageant Harry à poursuivre. « Elle n'est plus là. »«
Oh non !»
assura Dumbledore.
« Il l'a détruite. Ton âme a retrouvé son intégrité et t'appartient entièrement, Harry. »
Mais alors ? Harry jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vers l'endroit où la petite créature mutilée tremblait sous une chaise. « Qu'est-ce que c'est que ça, professeur ?»
« Quelque chose que nous ne pouvons aider ni l'un ni l'autre, »
répondit Dumbledore. « Mais si Voldemort a utilisé le sortilège d'Avada Kedavra, » reprit Harry, « et que cette fois personne n'a succombé à ma place, comment puis-je être encore vivant ?»«
Je crois que tu le sais, »
répliqua Dumbledore.
« Repense au passé. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans son ignorance, sa cupidité, sa cruauté. »
Harry réfléchit. Il laissa son regard errer sur le décor qui l'entourait. Si l'endroit où il se trouvait était véritablement un palais, il était bien étrange, avec ses sièges alignés en petites rangées et ses morceaux de balustrade dispersés ici ou là. Il n'y avait toujours personne d'autre en dehors de Dumbledore, de lui et de la petite créature chétive qui s'agitait sous la chaise. La réponse, alors, lui vint facilement aux lèvres, sans effort. « Il a pris mon sang ?» dit Harry.
« Exactement !»
s'exclama Dumbledore.
« Il a pris ton sang et s'en est servi pour se reconstruire un corps vivant !» Ton sang circule dans ses veines, Harry. La protection de Lily se trouve en vous deux. Il te rattache à la vie tant que lui-même est vivant.
Je reste en vie tant que lui-même est vivant? Mais je croyais que c'était dans l'autre sens. Je croyais que nous devions mourir tous les deux. Ou alors, est-ce la même chose? Il fut distrait par la créature torturée qui gémissait et gigotait derrière eux et la regarda à nouveau. Vous êtes sûr qu'on ne peut rien faire ?
Aucune aide n'est possible.
Alors expliquez-moi davantage, dit Harry. Dumbledore sourit.
Tu étais le septième Horcrux, Harry. L'Horcrux qu'il n'avait pas eu l'intention de créer. Il avait rendu son âme si instable qu'elle s'est brisée quand il a commis ses actes d'une malfaisance indescriptible, le meurtre de tes parents, la tentative d'assassinat sur un enfant. Mais ce qui restait de lui lorsqu'il s'est échappé de cette pièce ce soir-là était encore plus diminué qu'il ne le croyait. Il a laissé derrière lui plus que son corps. Il a laissé aussi une partie de lui-même accrochée à toi, la victime désignée qui avait survécu. Sa connaissance de la réalité, cependant, est demeurée tristement incomplète, Harry. Lorsque quelque chose paraît sans valeur à Voldemort, il ne prend pas la peine de s'y intéresser. Voldemort ne sait rien des elfes de maison, des contes pour enfants, de l'amour, de la loyauté, de l'innocence, et il n'y comprend rien, rien. Le fait qu'il puisse posséder un pouvoir qui dépasse le sien, un pouvoir hors de la portée de toute magie, est une vérité qu'il n'a jamais saisie. Il a pris ton sang, en croyant que cela le renforcerait. Il a fait entrer dans son corps une minuscule part de l'enchantement que ta mère a placé en toi lorsqu'elle est morte pour te sauver. Son corps garde vivant ce sacrifice, et tant que l'enchantement continue d'exister, toi aussi tu continueras à vivre, et un dernier espoir de survie demeurera en Voldemort.
Dumbledore sourit à Harry, qui le regardait fixement. Et vous le saviez ? Vous l'avez su depuis le début ?
Je l'ai deviné, mais généralement je devine bien,
répondit Dumbledore d'un ton joyeux. Ils restèrent assis en silence pendant un temps qui parut très long, tandis que derrière eux, la créature continuait de gémir et de trembler. « Il y a autre chose, » dit enfin Harry. « Autre chose que je voudrais savoir. Pourquoi ma baguette a-t-elle brisé celle qu'il avait empruntée ?»«
Sur ce point, je n'ai pas de certitude. »«
Devinez, dans ce cas, » suggéra Harry. Dumbledore éclata de rire.
« Ce que tu dois comprendre, Harry, c'est que toi et Lord Voldemort, vous avez voyagé dans des royaumes de la magie jusqu'alors inconnus, dont personne n'avait jamais eu l'expérience. Mais voici, d'après moi, ce qui s'est passé. C'est sans précédent, et à mon avis, aucun fabricant de baguettes ne pouvait le prévoir ou l'expliquer à Lord Voldemort. Sans le vouloir, comme tu le sais maintenant, Lord Voldemort a doublé le lien entre vous deux quand il a repris une forme humaine. Une partie de son âme était toujours attachée à la tienne et, pensant qu'il allait se renforcer, il a introduit en lui une parcelle du sacrifice de ta mère. Et s'il avait pu comprendre exactement la terrible puissance de ce sacrifice, peut-être n'aurait-il pas osé toucher à ton sang. Mais s'il avait été capable de comprendre, il ne serait pas Lord Voldemort et n'aurait peut-être jamais assassiné personne. Après avoir établi cette double connexion, après avoir lié vos destinées plus étroitement que ne l'ont jamais fait deux sorciers dans l'histoire, Voldemort t'a attaqué à l'aide d'une baguette qui partageait avec la tienne un cœur commun. Or, comme nous le savons, il s'est produit une chose très étrange. Les deux cœurs ont réagi d'une manière que Lord Voldemort, qui ne savait pas que ta baguette était une jumelle de la sienne, n'aurait jamais pu prévoir. Cette nuit-là, Harry, il était plus effrayé que toi. Tu avais accepté et même assimilé l'éventualité de la mort, quelque chose que Lord Voldemort n'avait jamais été capable de faire. Ton courage l'a emporté. Ta baguette a vaincu la sienne. Et ainsi, un phénomène s'est produit entre les deux baguettes magiques, un phénomène qui était un écho de la relation unissant leurs maîtres. Je crois que cette nuit-là, ta baguette a absorbé une partie du pouvoir et des qualités de celle de Voldemort, ce qui signifie qu'elle contenait un peu de Voldemort lui-même. Aussi l'a-t-elle reconnu lorsqu'il te poursuivait. Elle a reconnu un homme qui était à la fois un proche et un ennemi mortel, et elle a régurgité contre lui un peu de sa propre magie, une magie beaucoup plus puissante que tout ce qu'avait pu accomplir la baguette de Lucius. Ta baguette renfermait désormais la force de ton immense courage et des capacités meurtrières de Voldemort. Quelle chance pouvait-il alors rester au malheureux bâton de Lucius Malfoy ?
Mais si ma baguette avait une telle puissance, comment se fait-il qu'Hermione ait été capable de la briser ? Interrogea Harry.
Ses remarquables propriétés, mon cher Harry, étaient dirigées uniquement contre Voldemort, qui avait essayé de manipuler d'une manière tellement inconsidérée les lois les plus fondamentales de la magie. C'était seulement contre lui que cette baguette était si anormalement puissante. Pour le reste, il s'agissait d'une baguette comme les autres. Sûrement excellente, je n'en doute pas,
acheva Dumbledore d'un ton aimable. Harry resta songeur un long moment, à moins que ce ne fût simplement quelques secondes. Il était difficile dans cet endroit d'avoir une idée précise du temps. Il m'a tué avec votre baguette.
Il a essayé sans succès de te tuer avec ma baguette,
rectifia Dumbledore.
Je pense que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que tu n'es pas mort. Bien sûr,
ajouta-t-il par peur de paraître discourtois,
je ne veux pas minimiser tes souffrances, dont je suis certain qu'elles ont été épouvantes.
Pour l'instant, je me sens en pleine forme, assura Harry, en regardant ses mains propres sans tache. Où sommes-nous exactement ?
C'est ce que je m'apprêtais à te demander,
répondit Dumbledore en regardant autour de lui.
À ton avis, quel est cet endroit ?
Jusqu'à ce que Dumbledore ait posé la question, Harry ne le savait pas. Mais maintenant, il s'apercevait qu'il avait une réponse à donner. On dirait, murmura-t-il avec lenteur, la gare de King's Cross, mais vide, est beaucoup plus propre et aussi sans train, d'après ce que je vois.
La gare de King's Cross.
Dumbledore riait de bon cœur.
Mon Dieu, tu crois vraiment?
Et vous, où pensez-vous que nous sommes? Demanda Harry un peu sur la défensive.
Mon cher Harry, je n'en sais rien du tout. Comme on dit, c'est ta fête.
Harry n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Dumbledore était exaspérant. Il lui lança un regard sombre, puis se souvint d'une autre question beaucoup plus urgente que le fait de savoir où il se trouvait. « Les reliques de la mort », lança-t-il. Il fut content de voir que ces mots effaçaient le sourire de Dumbledore.
« Ah oui !»
répondit celui-ci. Il avait même l'air un peu inquiet. « Alors ?» Pour la première fois depuis que Harry s'était retrouvé devant lui, Dumbledore n'avait plus l'air d'un vieil homme, plus du tout. Pendant un instant, on aurait dit un petit garçon pris en faute.
« Pourras-tu jamais me pardonner ? »
demanda-t-il.
« Pourras-tu me pardonner de n'avoir pas eu confiance en toi, de ne pas t'avoir mis au courant, Harry. J'avais simplement peur que tu échoues, comme moi-même, j'avais échoué. J'avais peur que tu répètes les mêmes erreurs que moi. J'implore ton pardon. depuis un certain temps maintenant. Je sais que tu es le meilleur de nous deux.
De quoi parlez-vous ? S'étonna Harry, décontenancé par le ton de Dumbledore et les larmes qui étaient soudain apparues dans ses yeux.
Les reliques. Les reliques,
murmura Dumbledore.
Un rêve que poursuit l'homme avec acharnement.
Mais elles sont réelles.
Réelles et dangereuses. Un leurre pour les sots,
répliqua Dumbledore.
Et sots, je l'étais tellement. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Je n'ai plus de secret pour toi, tu sais tout.
Qu'est-ce que je sais? Dumbledore se tourna tout entier pour faire face à Harry, et des larmes brillaient toujours dans ses yeux d'un bleu lumineux.
Maître de la mort, Harry. Maître de la mort. Était-je finalement meilleur que Voldemort?
Bien sûr que oui, s'exclama Harry. Bien entendu. Comment pouvez-vous poser une question pareille? Vous n'avez jamais tué personne lorsque vous pouviez l'éviter.
C'est vrai, c'est vrai,
admit Dumbledore. Il avait l'air d'un enfant qui veut être rassuré.
Moi aussi, j'ai cherché un moyen de vaincre la mort.
Pas à sa façon, fit remarquer Harry. Après toute la colère qu'il avait éprouvée contre lui, il semblait étrange d'être assis là, sous le haut plafond voûté, à défendre Dumbledore contre lui-même. Vous, c'était les reliques, pas les Horcruxes.
Les reliques,
murmura Dumbledore.
Pas les Horcruxes, précisément.
Il y eut un silence. Derrière eux, la créature continuait de gémir, mais cette fois, Harry ne se retourna pas. Grindelwald les cherchait aussi, demanda-t-il. Dumbledore ferma un instant les yeux et acquiesça d'un signe de tête.
C'est surtout cela qui nous a rapprochés,
répondit-il à mi-voix.
Deux jeunes hommes intelligents, arrogants, qui partageaient la même obsession. Ils voulaient aller à Godric Solo, comme tu l'as sûrement deviné, à cause de la tombe d'Ignotus Peverell. Ils voulaient explorer l'endroit où le troisième frère était mort.
C'est donc vrai, interrogea Harry. Toute l'histoire, les frères Peverell
étaient les trois frères du comte,
acheva Dumbledore en hochant la tête.
Oui, je le crois. Ah, de là à penser qu'ils ont bel et bien rencontré la mort sur un chemin solitaire. Plus vraisemblablement, il s'agissait sans doute de sorciers très doués, dangereux, qui ont réussi à créer ces puissants objets. L'histoire des reliques de la mort me paraît plutôt relever d'une légende issue des objets eux-mêmes. La cape, comme tu le sais maintenant, a traversé les siècles de père en fils, de mère en fille, jusqu'au dernier descendant vivant d'Ignotus, né comme Ignotus lui-même dans le village de Godric Solo.
Dumbledore regarda Harry en souriant. Moi ?
Toi ? Tu as deviné, je le sais, pourquoi la cape était en ma possession le soir où tes parents sont morts. James me l'avait montrée quelques jours auparavant. Elle expliquait beaucoup de ses méfaits à l'école. J'avais du mal à croire ce que j'avais sous les yeux. Je lui ai demandé de l'emprunter, de l'examiner. J'avais depuis longtemps abandonné mes rêves de réunir les reliques, mais je n'ai pas pu résister. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder de plus près. Jamais je n'avais eu entre les mains une cape semblable, extraordinairement ancienne, parfaite à tout point de vue. Et puis, ton père est mort. Et voilà que j'avais finalement deux reliques pour moi tout seul.
Il y avait dans le ton de sa voix une amertume insupportable. « La cape ne les aurait pas aidés à survivre, » dit précipitamment Harry. « Voldemort savait où se trouvaient mon père et ma mère. La cape ne pouvait les protéger des maléfices. »«
C'est vrai, »
soupira Dumbledore.
« C'est vrai. »
Harry attendit, mais Dumbledore resta silencieux. Il l'incita alors à poursuivre. « Donc, quand vous avez eu la cape, vous aviez déjà renoncé à chercher les reliques ?»«
Oh oui !»
dit faiblement Dumbledore. Il semblait se forcer à regarder Harry dans les yeux.
« Tu sais ce qui s'est passé ? Tu le sais ?» Tu ne pourrais me mépriser plus que je me méprise moi-même.
Mais je ne vous méprise pas.
Tu devrais,
trancha Dumbledore. Il respira profondément.
Tu connais le secret de la santé précaire de ma sœur, ce que ces moldus lui ont fait, ce qu'elle est devenue. Tu sais comment mon malheureux père a cherché à se venger et en a payé le prix en mourant à Azkaban. Tu sais comment ma mère a renoncé à sa propre vie pour prendre soin d'Ariana. Tout cela m'a indigné, Harry.
Dumbledore avait parlé froidement, brutalement. Il regardait au loin à présent, par-dessus la tête de Harry.
J'étais doué. J'étais brillant. Je voulais m'échapper, je voulais étinceler, je voulais la gloire. Comprends-moi bien,
poursuivit-il. Une expression de douleur passa sur son visage, et il parut à nouveau très âgé.
« Je les aimais. J'aimais mes parents. J'aimais mon frère et ma sœur, mais j'étais égoïste, Harry. Plus égoïste que tu ne peux l'imaginer, toi qui es remarquablement désintéressé. Si bien que, quand ma mère est morte et que la responsabilité m'est revenue de m'occuper d'une sœur diminuée et d'un frère indiscipliné, je suis rentré dans mon village avec de la colère et de l'amertume. Je me voyais pris au piège, ma vie était gâchée. Et puis, bien sûr, il est arrivé. »
Dumbledore regarda à nouveau Harry dans les yeux.
« Grindelwald, tu ne peux pas imaginer à quel point ces idées m'ont captivé, Harry, m'ont enflammé. Les moldus, asservis, nous, les sorciers triomphants, Grindelwald et moi, les jeunes chefs glorieux de la Révolution. Oh, bien sûr, j'avais quelques scrupules, mais j'apaisais ma conscience avec des mots vides. Tout cela serait pour le plus grand bien, et le mal qui serait fait rapporterait 100 fois plus de bienfaits aux sorciers. Savais-je, au fond de mon cœur, qui était Gellert Grindelwald? Je pense que oui. Mais j'ai fermé les yeux. Si les plans que nous avions en tête se concrétisaient, je verrais se réaliser tous mes rêves. Et au cœur de nos projets, il y avait les reliques de la mort. Comme elles le fascinaient. Comme elles nous fascinaient tous les deux. La baguette invincible, l'arme qui nous amènerait au pouvoir, la pierre de résurrection. Pour lui, même si je faisais mine de ne pas le savoir, cela signifiait une armée d'inféries. Pour moi, je l'avoue, c'était plutôt le retour de mes parents et la fin des responsabilités qui pesaient sur mes épaules. Quant à la cape d'invisibilité, nous n'en avons jamais beaucoup parlé, Harry. Nous savions nous cacher suffisamment bien tous les deux pour n'avoir pas besoin de cette cape dont la véritable magie, bien sûr, réside dans le fait qu'elle peut servir à dissimuler et protéger les autres aussi bien que son possesseur. Je pensais que si jamais je la trouvais un jour, elle me serait utile pour cacher Ariana, mais elle nous intéressait surtout parce qu'elle complétait les reliques. La légende En effet, disait que l'homme qui réunirait les trois objets serait le véritable maître de la mort. Ce qui voulait dire pour nous l'invincibilité. Grindelwald et Dumbledore, les maîtres invincibles de la mort. 2 mois de démence, de rêves cruels. 2 mois pendant lesquels j'ai négligé les 2 seuls membres de ma famille qui me restaient. Et puis, tu sais ce qui s'est passé. La réalité est revenue en la personne de mon frère, fruste, illettré et infiniment plus admirable que moi. Je ne voulais pas entendre les vérités qu'il me lançait à la figure. Je ne voulais pas l'entendre dire que je ne pouvais partir à la recherche des reliques entraînant avec moi une sœur fragile et instable. La discussion s'est transformée en bagarre. Grindelwald a perdu son sang-froid. Ce que j'avais toujours senti en lui, tout en faisant semblant de l'ignorer, s'incarnait soudain d'une manière redoutable. Et Arianna, après tous les soins que lui avait prodigués ma mère, toutes les précautions dont elle l'avait entourée, était étendue morte sur le sol.
Dumbledore laissa échapper un petit sanglot et se mit à pleurer pour de bon. Harry tendit la main. Il fut content de voir qu'il pouvait le toucher. Il lui serra étroitement le bras et Dumbledore se reprit peu à peu.
Grindelwald s'est enfui. Comme tout le monde, à part moi, aurait pu le prévoir. Il a disparu, avec ses projets de prise du pouvoir, ses plans pour soumettre les moldus à la torture, et ses rêves de retrouver les reliques de la mort, des rêves que j'avais aidés, encouragés. Il a fui, alors que moi je restais seul. Pour enterrer ma sœur et apprendre à vivre avec ma culpabilité, avec mon terrible chagrin, le prix de ma honte. Les années ont passé, des rumeurs couraient sur lui. On disait qu'il s'était procuré une baguette d'une puissance prodigieuse. Pendant ce temps, on m'avait offert le poste de ministre de la magie. Non, pas une, mais plusieurs fois. Naturellement, j'ai refusé. J'avais appris qu'il valait mieux ne pas me confier le pouvoir.
Mais vous auriez été bien, bien meilleur que Fudge ou que Scrimgeour, s'exclama Harry.
Vraiment ?
Demanda Dumbledore d'un ton lourd.
Je n'en suis pas si sûr. J'avais donné la preuve dans mes jeunes années que le pouvoir était ma faiblesse et ma tentation. C'est une chose curieuse à dire, Harry, mais peut-être que les plus aptes à exercer le pouvoir sont ceux qui ne l'ont jamais recherché. Ceux qui, comme toi, reçoivent la responsabilité du commandement et endossent ce manteau parce qu'ils le doivent, puis s'aperçoivent à leur grande surprise qu'ils le portent très bien. Il valait beaucoup mieux que je reste à Poudlard. Je pense que j'ai été un bon professeur.
Vous étiez le meilleur.
Oh, tu es très gentil, Harry. Mais pendant que je m'occupais de l'éducation des jeunes sorciers, Grindelwald levait une armée. On disait qu'il me craignait, et peut-être était-ce vrai. Mais moins, sans doute, que je ne le craignais moi-même. Oh, ce n'était pas la mort que je redoutais.
Reprit Dumbledore en réponse au regard interrogateur de Harry.
« Je n'avais pas peur de ce que ces pouvoirs magiques pouvaient m'infliger. Je savais que nous étions de force égale. Peut-être même avais-je un soupçon d'habileté en plus. C'était la vérité que je craignais. J'ignore, vois-tu, lequel d'entre nous, dans ce dernier, cet horrible combat, avait véritablement jeté le maléfice qui a tué ma sœur. Tu peux me traiter de lâche, et tu aurais raison. Harry, je craignais plus que tout d'apprendre que c'était moi qui avait été la cause de sa mort, non seulement par mon arrogance et ma stupidité, mais parce que j'aurais porté le coup qui avait mis fin à sa vie. Je pense qu'il le savait. Je pense qu'il savait ce qui m'effrayait. J'ai repoussé le moment de l'affronter jusqu'à ce que, finalement, il devienne honteux de résister plus longtemps. Des gens mouraient et il semblait impossible de l'arrêter. Il fallait que je fasse ce que je pouvais. Tu sais ce qui est arrivé après? J'ai remporté le duel. J'ai conquis la baguette.
Nouveau silence. Harry ne demanda pas si Dumbledore avait jamais découvert qui avait foudroyé Ariana. Il ne voulait pas le savoir. Il voulait encore moins obliger Dumbledore à le lui dire. Au moins, savait-il maintenant ce que Dumbledore voyait quand il regardait le miroir du Rised, et pourquoi il avait si bien compris la fascination que ce miroir exerçait sur Harry. Ils restèrent sans parler pendant un long moment. À présent, les gémissements de la créature derrière eux troublaient à peine Harry. Enfin, il rompit le silence. Grindelwald a essayé d'empêcher Voldemort de retrouver la baguette. Il a menti en prétendant qu'il ne l'avait jamais possédée. Dumbledore hocha la tête en signe d'assentiment, les yeux baissés sur ses genoux, des larmes brillant toujours sur son nez crochu.
On dit qu'il a exprimé des remords dans ses dernières années, seul, dans sa cellule de Nurmengard. J'espère que c'est vrai. J'aimerais qu'il ait ressenti l'horreur et la honte de ce qu'il avait fait. Peut-être ce mensonge à Voldemort était-il une tentative de se racheter, d'empêcher Voldemort de s'emparer de la relique.
Ou peut-être de l'empêcher de violer votre sépulture, suggéra Harry. Dumbledore s'essuya les yeux. Après un nouveau et bref silence, Harry reprit. Vous avez essayé de vous servir de la pierre de résurrection. Dumbledore acquiesça d'un signe de tête.
Quand je l'ai découverte, après toutes ces années enterrées, dans la maison abandonnée des Gaunt, cette relique que j'avais désirée plus que les autres, bien que dans ma jeunesse, je l'ai voulue pour des raisons très différentes. J'ai perdu la tête, Harry. J'ai complètement oublié que c'était désormais un Horcrux, que cette bague portait en elle un maléfice. Je l'ai ramassée, je l'ai passée à mon doigt, et pendant un instant, j'ai imaginé que j'allais revoir Ariana, revoir ma mère et mon père, et que j'allais pouvoir leur dire à quel point je regrettais. Oh, j'ai été si sot, Harry, après tant d'années. Je n'avais rien appris. Je n'étais pas digne de réunir les reliques de la mort. Je l'avais prouvé maintes fois, et j'en apportais ainsi l'ultime preuve.
Pourquoi ? S'étonna Harry. C'était naturel. Vous vouliez les revoir. Qu'y a-t-il de mal à ça ?
Il existait peut-être un homme sur 1 million qui pouvait rassembler les reliques. « Harry, je n'étais capable de posséder que la plus médiocre, la moins extraordinaire. Je pouvais posséder la baguette de Sureau, et ne pas m'en vanter, ne pas m'en servir pour tuer. Il m'était permis de la dominer, de l'utiliser simplement parce que je l'avais prise, non pour un bénéfice personnel, mais pour sauver les autres de ses méfaits. La cape, en revanche, je l'ai examinée par une simple et vaine curiosité. Elle n'aurait jamais fonctionné pour moi aussi bien que pour toi, son véritable propriétaire. Quant à la pierre, je m'en serais servi pour essayer de ramener ceux qui reposaient en paix, plutôt que pour accomplir le sacrifice de moi-même, comme toi, tu l'as fait. Tu es le digne possesseur des reliques.
Dumbledore tapota la main de Harry. Celui-ci leva les yeux vers le vieil homme et sourit. Il ne put s'en empêcher. Comment rester en colère contre Dumbledore maintenant ? Pourquoi fallait-il que vous rendiez les choses si difficiles ? Dumbledore eut un sourire timide.
J'ai peur de le dire, mais je comptais sur Miss Granger pour te ralentir, Harry. Je craignais que ton tempérament emporté ne domine ton bon cœur. Je redoutais qu'en t'exposant ouvertement la vérité sur ces objets tentateurs, tu ne t'empares des reliques comme je l'ai fait au mauvais moment et pour de mauvaises raisons. Si tu parvenais à mettre la main dessus, je voulais que tu les possèdes sans courir de danger. Tu es le vrai maître de la mort, parce que la mort, le vrai maître, ne cherche pas à la fuir. Il accepte le fait qu'il doit mourir et comprend qu'il y a dans le monde des vivants des choses pires, bien pires que la mort.
Et Voldemort, il n'a jamais rien su des reliques.
Je ne crois pas. Car il n'a pas identifié comme telle la pierre de résurrection lorsqu'il l'a transformée en Horcrux. Mais même s'il les avait connues, Harry, je doute qu'elle l'ait intéressée, sauf la première. Il ne pensait pas avoir besoin de la cape, et en ce qui concerne la pierre, qui donc aurait-il voulu faire revenir d'entre les morts? Il craint les morts, il n'aime personne.
Mais vous pensiez qu'il chercherait la baguette?
Et j'étais sûr qu'il essaierait, depuis le moment où ta propre baguette l'a vaincu dans le cimetière de Little Angleton. Tout d'abord, il a eu peur que tu l'aies dominé par une habileté supérieure à la sienne. Lorsqu'il a kidnappé Ollivander, cependant, il a découvert l'existence des cœurs jumeaux, et il a pensé que cela expliquait tout. Pourtant, la baguette empruntée n'a pas mieux fait contre la tienne. Alors, Voldemort, au lieu de se demander quelle qualité il y avait en toi qui rendait ta baguette si puissante, quel don tu possédais, dont il était lui-même dépourvu, a simplement essayé de trouver la seule baguette magique qui, disait-on, pouvait vaincre toutes les autres. Pour lui, la baguette de Sureau était devenue une obsession qui rivalisait avec son obsession pour toi. Il pense que cette baguette va le débarrasser de son ultime faiblesse et le rendre véritablement invincible. Pauvre Severus.
Si vous aviez prévu de mourir de la main de Rogue, vous vouliez que ce soit lui qui possède la baguette de Sureau?
J'avoue que telle était mon intention,
répondit Dumbledore.
Mais cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais, n'est-ce pas?
Non, dit Harry. Ça n'a pas marché. Derrière eux, la créature s'agitait, gémissait, et Harry et Dumbledore restèrent à nouveau silencieux plus longtemps encore qu'auparavant. Pendant ces longues minutes, comme si une neige douce et lente tombait sur lui, Harry prit peu à peu conscience de ce qui devait se produire à présent. Il faut que j'y retourne, n'est-ce pas ?
C'est à toi de décider.
J'ai le choix?
Oh oui!
Dumbledore lui sourit.
D'après toi, nous sommes à King's Cross. Eh bien, je pense que si tu décidais de ne pas y retourner, tu pourrais, disons, monter dans un train.
Et où m'emmènerait-il?
Plus loin,
répondit simplement Dumbledore. Nouveau silence. Voldemort possède la baguette de Sureau.
Exact. Voldemort possède la baguette de Sureau.
Mais vous voudriez quand même que je reparte?
Je crois,
répondit Dumbledore,
que si tu choisis d'y retourner, il y a une chance pour que Voldemort soit fini à tout jamais. Je ne peux pas te le promettre, mais je sais, Harry, que tu as moins à craindre que lui si tu repars là-bas.
Harry regarda à nouveau la créature écorchée qui tremblait et suffoquait dans l'ombre, sous la chaise un peu plus loin.
« N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie plutôt pitié des vivants, et surtout de ceux qui vivent sans amour. En y retournant, tu pourrais faire en sorte qu'il y ait moins d'âmes mutilées, moins de familles déchirées. Si cela en vaut la peine à tes yeux, alors, disons-nous au revoir pour l'instant. »
Harry hocha la tête en signe d'approbation et soupira. Partir d'ici serait beaucoup moins difficile que ne l'avait été sa marche dans la forêt. Cet endroit pourtant était chaud, lumineux, paisible. Et il savait qu'il retournait vers la douleur et la crainte d'autres deuils. Il se leva, Dumbledore l'imita, et ils se dévisagèrent un long moment. « Je voudrais savoir une dernière chose, » dit Harry. « Est-ce que tout cela est réel, ou bien est-ce dans ma tête que ça se passe ?» Dumbledore le regarda d'un air radieux, et sa voix résonna avec force aux oreilles de Harry, malgré la brume lumineuse qui descendait à nouveau sur eux, en masquant sa silhouette.
« Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel ?